Eh bien, bienvenue au téléséminaire « Comment enfin se fixer des objectifs gagnants ». Vous êtes en direct avec Grégory Spelard pour plus ou moins 1h30 de téléséminaire extrêmement riche, non seulement en informations, mais aussi et surtout en exercices qui vous permettront, j'en suis convaincu, d'atteindre tous vos objectifs. Pour repréciser, pendant ce téléséminaire, j'aborderai ce qu'on appelle la méthode SMART. Certains connaissent peut-être, je la réexpliquerai pour l'ensemble des participants. Et surtout, pourquoi elle ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez. La méthode SMART, c'est simplement une méthode pour définir les objectifs. Nous verrons ensuite les 5 pièges de la définition d'un objectif et comment les éviter. Comment faire de votre cerveau et de vos émotions vos meilleurs alliés dans l'atteinte de vos objectifs, parce que c'est bien à l'intérieur de votre cerveau et à l'intérieur de vos émotions que tout se joue. Comment vaincre la difficulté du premier pas? On a beau définir un objectif, ce qui est important, c'est ce premier pas à faire. Et ensuite, comment garder la motivation jusqu'à la concrétisation de l'objectif? Nous terminerons avec les 5 clés pour dépasser tous vos objectifs et une séance de visualisation d'un de vos objectifs. Et bien entendu, après ça, je garde un temps pour répondre aux différentes questions que j'ai reçues par mail avant le téléséminaire. Et nous clôturerons vraiment ce téléséminaire avec un bonus que je vous offrirai. Alors, je vous conseille d'avoir de quoi noter. Le fascicule qui vous a été envoyé est prévu pour recevoir vos notes. Je vous invite, si vous savez, à mettre sur haut-parleur aussi pour être vraiment à l'aise dans l'écoute de ce téléséminaire et dans la pratique des différents exercices qui vous seront proposés. Et avant de vous parler de la méthode SMART, pourquoi est-il important, voire indispensable, de se fixer des objectifs ? Tout simplement parce que vous le vouliez ou non, vous vous fixez de toute façon toujours des objectifs, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Et je vais prendre un exemple vraiment tout simple, que pratiquement tout le monde a déjà vécu. Votre frigo est vide. Ça vous a certainement déjà arrivé. Vous ouvrez le frigo, en rentrant le soir, oh, plus rien. Vous décidez de le remplir. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une liste de courses? Peut-être. Vous prenez votre voiture, vous allez au magasin acheter les produits, vous revenez avec tous les produits de votre liste, ou pas. Parfois, il y a des ruptures de stock. Parfois aussi, vous revenez avec plus de produits que prévu sur la liste. Mais toujours est-il qu'en fin de compte, vous remplissez votre frigo. Et si vous ne faites pas de liste, c'est-à-dire si vous ne prenez pas la peine, avant d'aller au magasin, de vous imaginer les repas que vous allez faire, qu'est-ce que je vais faire à manger? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Italien? Indien? Indonésien, français, pour combien de jours? Et le petit déjeuner, comment vais-je le varier? Et ainsi répertorier tous les ingrédients dont vous avez besoin. Si vous ne faites pas cette liste-là, donc si vous ne vous imaginez pas, si vous ne vous projetez pas en avant, vous reviendrez avec la moitié des ingrédients. Vous êtes peut-être déjà certainement dit, au retour de course, vous êtes en train de cuisiner, vous dites « Oh mince, si j'avais su, j'aurais pris des piments, nous aurions pu faire un poulet du Sud, une recette indienne très piquante. » Mais voilà, vous n'avez pas imaginé faire ce repas-là, donc ce n'était pas sur votre liste, et donc vous ne l'avez pas. Bon, en tout cas, moi ça m'est déjà arrivé, en tout cas, de revenir et de dire « Oh mince, il me manque ça, on aurait pu faire ce plat-là. » Donc je disais donc que vous fixez inconsciemment des objectifs et vous les structurez de manière inconsciente en objectif de moyen ou en objectif final. C'est-à-dire, vous imaginez les plats que vous souhaitez manger pour les 3 jours à venir. C'est votre objectif final. Vous voyez en train de manger votre super plat de pâtes, votre côte de bœuf. C'est bien un objectif final. Votre objectif de moyen sera de remplir le frigo des ingrédients nécessaires. Et puis, vous allez prévoir un temps pour faire les courses. Et votre objectif de moyen, c'est-à-dire remplir le frigo, peut être différent suivant les critères que vous mettrez dans votre objectif final. Ah oui. Je mange indien, où ça? À la maison ou au restaurant? Si c'est à la maison, je vais aller faire des courses. Si c'est au restaurant, je vais aller répertorier les restaurants indiens qui seront ouverts tel jour ou tel jour. Vos actions seront différentes. Et toutes ces petites choses du quotidien que l'on fait de manière inconsciente sont des objectifs que l'on se fixe tout le temps sans s'en rendre compte. Eh bien, c'est pareil pour les choses beaucoup plus importantes dans la vie. Encore que manger, je considère que c'est une chose importante, et surtout manger ce que l'on souhaite manger. Mais par exemple, quel style de vie souhaitez-vous avoir dans 3 ans? Où voulez-vous être professionnellement dans 5 ans? Avec qui voulez-vous partager votre vie? Dans quel état de santé voulez-vous être dans 1 an? Ce sont des objectifs finaux. Et indispensable à un moment donné de sa vie de se les poser ces questions et de fixer ses objectifs. Ensuite viennent les objectifs de moyen, c'est-à-dire le processus par lequel vous allez atteindre vos objectifs finaux. Par exemple, si l'objectif final est d'avoir un nouveau job, vous allez imaginer faire votre liste de comment sera ce job, comment vous serez dans ce job-là, et on verra plus loin comment le faire. Et ensuite, vous allez déterminer vos objectifs de moyens. Ce sera peut-être, dans un premier temps, avoir l'objectif d'utiliser l'informatique, de connaître une nouvelle langue, d'élargir votre réseau de connaissances. Ce sont des objectifs que vous allez vous fixer, de moyens, qui sont en fait au service de votre objectif final. Un collègue écrivait dans un de ses livres, « Si vous n'avez pas de plan de vie, vous faites partie de celui de quelqu'un d'autre. » Si vous n'avez pas de plan de vie, vous faites partie de celui de quelqu'un d'autre. Je vous invite vraiment à réfléchir à cette affirmation-là. C'est d'autant plus véridique par rapport aux objectifs tant professionnels. Est-ce que vous fixez des objectifs professionnels ou vous laissez-vous fixer vos propres objectifs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous les fixe ou au contraire, est-ce que vous êtes proactif? Et aussi vos objectifs personnels. Et tout ce processus de fixation d'objectifs que l'on fait tout le temps procède de 3 choses. 1. L'imagination. 2. L'émotion. 3. Le rationnel. Et c'est sur ces 3 points-là que l'action va se produire, que l'action vers l'objectif va se produire. Vous imaginez les plats que vous souhaitez manger, vous voyez les manger. Pour ma part, avant de faire des courses, je visite des livres de recettes, Je les lis, je regarde les photos, je commence à m'imaginer, waouh, le plat, je commence à saliver. C'est physiologique. J'ai une émotion très positive qui est liée à l'imagination du plat que je suis en train de voir sur le livre de recettes. Et ensuite, je structure mon action. Je prends l'axe rationnel, qui va faire des courses, quand, avec quelle voiture, dans quel magasin. Et donc je répète, c'est important d'être dans cet ordre-là. Prendre le temps de l'imagination, savourer l'émotion, et ensuite, le rationnel, la structuration qui mène à l'action. Il y a un ordre et une intensité à donner à chaque axe. Et si vous négligez un de ces axes, l'atteinte de votre objectif est compromise. Et c'est pourquoi, ça va nous mener au premier point, c'est pourquoi la méthode SMART ne fonctionne pas souvent. Alors, tout d'abord, la méthode SMART et pourquoi elle ne fonctionne pas. Qu'est-ce que la méthode SMART ? SMART, c'est l'acronyme de spécifique, mesurable, atteignable, relevant, c'est-à-dire motivant, et tracé dans le temps. Spécifique, on décrit le résultat qu'on souhaite atteindre, si possible de manière précise et positive. Mesurable, on détermine les indicateurs de mesure, à quoi saurais-je que j'ai atteint cet objectif. Atteignable, on vérifie que l'objectif est atteignable, qu'il n'est pas irréaliste. Relevant, on s'assure qu'on est motivé pour l'objectif et tracé dans le temps, on fixe une date. À première vue, c'est assez complet comme méthode. Si on prend l'exemple du frigo, un exemple tout simple, spécifique, je mange les repas que je souhaite cette semaine, une fois indien, une fois italien, une fois roumain, une fois français, etc., etc. Mesurable, je peux constater, effectivement, que j'ai mangé des recettes indiennes ou italiennes. Vous aurez peut-être deviné que j'apprécie particulièrement la cuisine indienne et italienne. Bon, c'est vrai. Atteignable, est-ce que j'ai de l'argent sur mon compte pour aller acheter les produits ? Est-ce que je sais cuisiner ? Relevant, ah oui, je suis motivé, j'aime bien, j'adore la cuisine indienne, j'adore la cuisine italienne. Mais est-ce que j'aime aussi cuisiner ? Question. Tracé dans le temps, je fais le planning des repas de la semaine, ce que j'ai besoin pour aller les faire, etc. Alors, pour avoir suivi de nombreuses PME, petites et moyennes entreprises, et des indépendants dans la fixation de leurs objectifs, je dois vous dire sincèrement, la méthode SMART, c'est celle qui est généralement la plus utilisée et que la définition d'un objectif s'arrête généralement à ce que je viens de vous dire, dans le meilleur des cas. Parfois, c'est deux lignes, deux ou trois lignes, et c'est fini, plus rien. Donc cette méthode, qui est utilisée pratiquement dans la majeure des entreprises, ne tient pas compte du tout du cerveau droit, c'est-à-dire de l'imagination et des émotions qui sont les véritables moteurs de l'atteinte de l'objectif et de l'action. L'imagination et les émotions sont le véritable moteur de l'action. Et voici l'erreur à éviter à tout prix. Trop souvent, lorsqu'un objectif n'est pas atteint, le réflexe est de se dire « qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Ce n'est pas le plus important à se poser comme question. Car retenez toujours, l'action est la résultante de l'attitude intérieure elle-même la résultante de ce que l'on imagine et vit émotionnellement au sujet de cet objectif. Donc, il y a deux questions à se poser lorsqu'un objectif n'est pas atteint. Je vais vous demander tout de suite là de faire le premier exercice, de simplement vous remémorer un objectif récent que vous n'avez pas atteint et de répondre à ces deux questions. Qu'est-ce que vous n'avez pas imaginé? Ou qu'est-ce que vous avez imaginé en parallèle et qui allait dans l'autre sens que votre objectif? Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas imaginé dans votre objectif? Ou qu'est-ce que vous avez imaginé en parallèle et qui allait dans l'autre sens? Un exemple tout simple, je m'imagine être à la capitale avec ma voiture et en parallèle, je m'imagine avoir un accident sur la route. Voilà, deux choses qui vont, deux imaginaires qui vont dans le sens opposé. Et la deuxième question, qu'est-ce qui n'était pas OK au niveau émotionnel pour vous par rapport à cet objectif? Quelles étaient les émotions limitantes que vous aviez par rapport à cet objectif? Ce sont vraiment là les deux questions qui vont permettre un changement. Parce qu'elles travaillent les réponses, vous allez pouvoir transformer ces réponses-là, et de la transformation de ces réponses-là, vous allez transformer votre action. La méthode SMART ne fonctionne pas souvent parce qu'elle ne fait pas appel à ce qui sous-tend cette action. L'imagination, c'est votre vision du résultat atteint. L'émotion, c'est l'émotion positive que ce résultat va vous permettre de vivre. Et ça, c'est une clé fondamentale pour l'atteinte de tous vos objectifs. Et nous y reviendrons plus en détail tout à l'heure dans le téléséminaire. Donc, pour définir concrètement, correctement vos objectifs, le point de départ, c'est d'avoir la vision la plus claire et la plus précise possible, non seulement de votre objectif, mais surtout de vous à l'intérieur de cet objectif. Qui êtes-vous, vous, une fois l'objectif atteint? Quelle est votre véritable identité? Comment vous vous sentez? Comment vous vous définissez? Et vous détectez quelle émotion positive cette vision va vous permettre de vivre. Alors, le point ici crucial, c'est la notion d'identité. On s'imagine l'objectif atteint, on se met dedans, mais aussi on se définit qui je suis à ce moment-là. Je vais prendre l'exemple de personnes qui travaillent dans l'entreprise du marketing relationnel. Elles démarrent et elles veulent devenir des leaders. Elles se voient, en tout cas, elles veulent avoir un grand réseau. Elles se voient, par exemple, avec 500, 600, 1000, 2000, 5000 distributeurs, une grande équipe. Et elles se l'imaginent. Le plus important dans le processus d'imagination, c'est quelle est votre identité là-dedans. C'est bien l'identité de leader qui doit sortir. C'est bien vous voir vous en tant que leader. Sentir, c'est quoi un leader pour vous? Vous voir faire des gestes d'un leader. Si vous imaginez votre objectif, mais dans votre situation actuelle, comment vous vous sentez actuellement, avec votre identité actuelle, vous loupez le coche. Vous devez vous-même vous projeter dans une nouvelle identité, c'est-à-dire celle que vous aurez lorsque l'objectif sera atteint. Et c'est cette identité-là que vous allez construire pas à pas. Alors pour l'heure, il est temps de voir comment définir plus en détail un objectif gagnant en partant des 5 pièges à éviter. Le premier piège, ce sont les fausses motivations. Alors, qu'est-ce qu'une fausse motivation? C'est se fixer un objectif pour fuir une situation. J'ai souvent rencontré dans mes interventions en entreprise, où l'on va se fixer comme objectif, par exemple, j'ai un souvenir en tête, d'acquérir un nouveau logiciel pour que tout le monde communique enfin mieux, qu'il y ait des échanges entre les services, etc. Qu'il n'y ait plus de perte d'informations. Et en fait, une fois que le logiciel est là, ça ne change absolument rien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la base, la motivation est fausse. Elle est pour fuir une situation qui est en fait une situation de tension et de conflit entre les membres de l'équipe. C'est une fausse motivation qui anime cet objectif d'implanter un nouveau logiciel. C'est la peur du conflit, la peur de mettre les gens ensemble. Même chose pour celui qui veut changer de job, parce qu'il ne s'entend plus avec ses collègues. Son chef l'ennuie. Il ne gagne pas assez. C'est une fausse motivation aussi. Je n'ai pas dit que l'objectif devait changer. J'ai dit que la motivation est fausse. Alors, autre exemple de fausse motivation, vous voulez devenir distributeur indépendant pour gagner plus d'argent? Ok, regardez au fond de vous la fausse motivation qu'il y a derrière. Bien souvent, l'expérience que j'ai avec les personnes qui travaillent dans le marketing relationnel, c'est la peur de manquer l'argent, la fausse motivation. Et donc, dans le cas d'une fausse motivation, vous démarrez votre objectif avec une émotion limitante. Et votre cerveau, lui, fait des liens. Et c'est donc plus difficile d'atteindre votre objectif. Encore une fois, l'émotion, un des trois axes, si vous démarrez avec cet axe-là qui est déjà avec une émotion limitante, ça va être plus difficile. Donc retenez bien que lorsqu'un objectif que vous vous êtes défini ne se concrétise pas, c'est souvent parce qu'il y a une fausse motivation derrière. Vous n'avez pas à changer d'objectif, simplement à transformer la motivation de base. Et comment, vous allez me dire? Comment? Alors, je vais vous proposer un exercice à faire après le téléséminaire, ce qui va prendre un peu de temps. Vous allez d'abord détecter la fausse motivation. Donc pour ça, vous allez simplement vous poser, donc vous notez sur une page votre objectif qui n'est pas atteint par exemple, ou l'objectif que vous voulez vous fixer. Et vous vous posez comme question, mais qu'est-ce qui motive vraiment cet objectif? Est-ce qu'il y a en moi une fuite de quelque chose de désagréable, comme les exemples que je viens de vous donner? Ou encore, est-ce qu'il y a une expansion intérieure, un élan intérieur? C'est-à-dire, changer de job, Changer de job? La peur de manquer, d'où vient-elle? Réfléchissez, notez-le, hein, on va faire ça après le téléséminaire, notez, détectez. Si effectivement changer de job, c'est parce qu'il y a une peur, une crainte, la peur du conflit ou autre, ou si changer de job, c'est vraiment pour déployer tous vos talents d'organisateur, de leader, etc., etc., que vous ne pouvez pas faire dans votre job actuel. Est-ce que c'est un élan qui va vous donner des ailes ou au contraire, est-ce que c'est pour fuir quelque chose? Une fois que vous aurez découvert cette fausse motivation, vous allez simplement la détailler. Je vais reprendre la peur de manquer d'argent, d'où vient-elle? Quel est son impact sur ma vie, sur mes actes? La peur, bien entendu, hein. Pas le manque d'argent. Quel est l'impact de ma peur de manquer sur mes actes? Quelles sont les images associées, les sons, etc., etc. Et pour faire cet exercice, travailler sur cette fausse motivation, vous avez besoin d'une feuille de papier, d'un bic et d'une paire de ciseaux. Vous prenez la feuille de papier format A4 en paysage, vous la divisez en deux, et sur le côté gauche, vous dessinez un ovale dans lequel vous allez mettre tous les mots liés à votre fausse motivation. Et sur le côté droit de la feuille, vous allez dessiner aussi un ovale dans lequel vous allez mettre votre objectif. Ensuite, vous reliez les deux ovales avec cette ligne. Partons du haut. Première ligne va du haut du premier ovale jusqu'en haut du deuxième ovale. Et vous descendez comme ça jusqu'à la dernière ligne qui part du bas du premier ovale vers le bas du dernier ovale. Cela représente en fait les liens entre votre objectif et la fausse motivation. Et prenez un temps pour observer ces liens et ce que cela provoque en vous. Ensuite, prenez la paire de ciseaux et coupez la feuille en deux. Coupez les liens entre votre fausse motivation et votre objectif. Buvez de l'eau et observez ce qui se passe en vous. Peut-être ressentirez-vous un soulagement, plus de légèreté ou rien du tout. Soyez confiant que le processus de déliaison est en cours. Simplement, vous avez posé un acte symbolique très fort, laissez les choses se faire. Et pour terminer, vous allez associer votre objectif avec une motivation forte, positive, qui vous pousse en avant, qui vous inspire, quelque chose qui vous prend par les tripes. Vous avez envie de remuer ciel et terre. Je change de job encore une fois pour exploiter mes talents de manager. C'est tout à fait différent. Je change de job pour ne plus vivre les conflits de l'équipe. Non, non, c'est vivant, ça part de vous. Voici pour le premier piège. Alors, le deuxième piège, c'est le conflit de valeurs. Veillez à ce que votre objectif, professionnel ou personnel, soit en accord avec vos valeurs profondes. Je vais prendre un exemple que je rencontre souvent en séminaire. Vous avez l'objectif de gagner plus d'argent en travaillant moins. Mais en même temps, le travail, c'est une valeur profonde pour vous. Il y a un conflit interne entre votre objectif et votre valeur. Même chose, vous faites partie d'une entreprise, vous n'êtes pas OK avec certaines valeurs. Ça va automatiquement créer un conflit qui entrave l'atteinte des objectifs. Donc là, le premier exercice à faire, hein, c'est de déterminer quelles sont mes valeurs profondes. Qu'est-ce qui est hyper important pour moi? Le troisième piège. Après, bien sûr, on verra que on mettra en lien l'objectif, vous mettrez en lien votre objectif, vos objectifs avec vos valeurs. Et voir s'il y a dissonance ou pas. Alors, le troisième piège, c'est celui de la formulation de l'objectif. C'est l'étape, une des étapes la plus importante, parce que toutes les étapes sont importantes. Et celle-là est importante parce qu'elle donne véritablement l'ordre au cerveau de créer votre nouvelle réalité. On est bien d'accord que vous allez changer de réalité. Vous êtes là maintenant, aujourd'hui, tel que vous êtes dans votre situation actuelle. Vous vous fixez un objectif pour dans 6 mois, 1 an, 3 mois, 1 mois. Il est clair que votre situation actuelle aura changé dans 6 mois, 1 an, 3 mois ou 1 an, 1 mois. Donc vous créez bien une autre réalité, d'abord virtuellement à l'intérieur de votre cerveau. Et vous la créez en formulant votre objectif. Alors, quels sont les pièges? Quels sont les pièges de la formulation de l'objectif? D'abord, parler au futur. J'aurai ceci ou cela. Ensuite, parler en termes de souhait. Je souhaite aller en vacances. Parler négativement, je ne souhaite plus cela, ça c'est vraiment le signe d'une fausse motivation. Rester dans le vague et ne pas mettre de date. Donc vous tombez dans ces pièges-là par une mauvaise compréhension d'un point fondamental que pour créer votre nouvelle réalité, vous n'avez pas, elle n'est pas à distance de vous, pardon, elle n'est pas à distance de vous, elle est déjà potentiellement dans votre existence. Et c'est vous qui allez vous en rapprocher en changeant, en transformant intérieurement qui vous êtes, vous vous rapprochez de cette situation qui est déjà potentiellement dans votre vie. Et vous vous en rapprochez de plus en plus en conditionnant votre cerveau et vos émotions à croire en cette nouvelle réalité, à croire en cet objectif. Et pour s'en rapprocher, utilisez le temps présent. Je suis dans ma nouvelle maison. Je suis entouré de mon équipe de 3000 distributeurs. Vous pouvez aussi utiliser l'affirmation ou surtout l'exclamation. Je suis dans ma nouvelle maison et qu'est-ce qu'elle est belle, entièrement comme je le souhaite. Y mettre de l'emphase, des émotions déjà dedans. Utilisez toujours les termes que vous souhaitez avoir. Comme je disais dans une de mes téléconférences, j'ai une installation performante et saine, et non dire une installation sanitaire performante et saine, et non dire il n'y a plus aucune fuite. Le cerveau fait des connexions avec le mot fuite. Et à ce propos, j'ai une petite histoire qui m'est arrivée avec le mailing que j'ai envoyé pour ce téléséminaire. Donc j'ai envoyé un mailing pour inviter les gens à ce téléséminaire et quelqu'un me répond gentiment « J'ai bien reçu votre mail et je vous invite à un premier objectif personnel. M'envoyez votre prochain mail, exemple de faute d'orthographe. » J'ai trouvé ce retour très riche car c'est vrai que c'est pas un point auquel je m'attarde beaucoup, l'orthographe, favorisant l'accès rapide à l'information plutôt que d'attendre que j'ai un ou deux lecteurs qui relisent chaque mail que j'envoie. Alors peut-être à tort, mais bon. Et bref, effectivement, j'avais fait des fautes d'orthographe dans le mailing. Peut-être que vous en êtes aperçu. Enfin bon, bref. J'ai donc répondu à ce monsieur en le remerciant. C'est vraiment un point sur lequel je me dis, tiens, j'aimerais me fixer un objectif par rapport à ça, peut-être. Mais surtout, je lui ai suggéré une reformulation de son objectif. Alors, d'après vous, comment ai-je reformulé cet objectif ? Réfléchissez un petit peu. M'envoyer le prochain mail exempt de faute d'orthographe. Comment le reformuler ? Pour qu'il soit formulé en termes que je souhaite avoir. Eh bien, je lui ai envoyé. M'envoyer le prochain mail avec une orthographe parfaite. Pourquoi ? Parce que quand le cerveau enregistre le mot faute directement, il fait des associations avec toutes les expériences où j'ai été pris en faute, où j'ai fait une faute. C'est limitant, c'est non motivant. Ça attire l'attention sur faute. Tandis que le mot parfaite, mon cerveau fait des associations positives sur tout ce que j'ai déjà réussi. C'est beaucoup plus motivant. Quatrième chose à faire pour se rapprocher le plus possible de votre objectif, c'est d'inscrire un maximum de critères. Un critère, c'est des choses que vous voulez voir se produire dans votre objectif. Vous souhaitez un nouveau job, décrivez une journée type. Donnez tous les critères, le temps pour y aller, le type de collègues que vous allez avoir, le type de relation avec votre supérieur, le type de contrat, l'argent, la variété dans le boulot. Vous êtes indépendant, le nombre de clients, le type de clients. Plus vous serez précis, mieux c'est. Plus votre cerveau pourra faire des connexions et vous donner des informations, vous guider dans la matérialisation de cet objectif. Et puis ensuite, rien n'empêche de faire vos priorités. De dire, mais voilà, mes 5-6 critères fondamentaux pour cet objectif-là. Ce que je veux vraiment. Et cinquièmement, mettez une date, comme si vous y étiez déjà. Aujourd'hui, le 18 avril 2009, c'est un exemple, je suis dans ma nouvelle maison. Et je mets tous les critères ensuite. Mieux encore, vous pouvez mettre « Avant le 18 avril 2009, je suis dans ma nouvelle maison. » Avant cette date-là. Pourquoi se limiter ? Votre objectif peut arriver avant la date. Un objectif, c'est un rêve avec une date. La date focalise le mental sur un arrêt dans le temps et induit une dynamique d'action. Pensez à Kennedy, président Kennedy, lorsqu'il a dit au monde entier quelque chose comme « Avant 1970, 1970, nous enverrons un homme marcher sur la Lune et le ramènerons vivant. » C'était peut-être pas tout à fait en ces termes-là. En tout cas, il y avait bien une date butoir. Savait-il comment il allait faire? Je doute qu'à l'époque, il savait exactement le comment. Mais il a donné une vision. Il a donné une vision. Et il a arrêté cette vision à une date. Et sixièmement, pour définir l'objectif gagnant, imaginez-vous un processus agréable par lequel vous atteignez votre objectif. Notez ça dans vos critères. Par exemple, un exemple, si vous avez pour objectif final d'augmenter votre clientèle et que vous vous fixez comme objectif de moyen de faire de la prospection téléphonique. Mais vous n'aimez pas ça. Vous détestez prendre votre téléphone, appeler une entreprise, un client que vous ne connaissez pas, hop, pour lui proposer vos services. Trouvez un autre moyen. Trouvez un processus d'action qui vous procure du plaisir tout au long du chemin. Parfois, et je dis parfois, mais dans les expériences que j'ai vécues en entreprise, je dirais même que c'est bien souvent, on a un objectif qui est stimulant, mais il n'y a rien qui se met en place. Pourquoi? Parce que le processus d'action par lequel que l'on met en place n'est pas motivant du tout. Ah oui, on est motivé pour avoir l'objectif final, mais ça ne nous motive pas du tout le processus d'action. Donc, imaginez un processus d'action qui vous procure du plaisir. Et si vous devez faire la prospection téléphonique que vous n'aimez pas, déléguez, par exemple. Ou imaginez un autre processus, faire des relations publiques, participer à des dîners. Il y a plusieurs moyens, si je reprends toujours cet exemple, de développer sa clientèle. Or, tout ça, vous ne pouvez le faire que si vous vous imaginez dans la situation finale. C'est de la situation finale que vous décrivez votre objectif et non de votre situation actuelle. On reprend vraiment bien cette notion d'identité. Comprenez bien que vous imaginez, vous, avec votre nouvelle identité, une fois que l'objectif est atteint. Laissez le temps, la place à l'imagination. L'imagination, l'imagination, l'imagination. Alors ici, il y a quelque chose que j'aimerais vous donner, quelque chose que je n'ai encore jamais révélé à ce jour. C'est le truc infaillible pour savoir si votre objectif est bien formulé pour vous. Pour vous. Alors écoutez bien. Lorsque vous avez formulé votre objectif complètement, aujourd'hui, je suis dans ceci, cela, les critères, hein, etc. Vous allez le répéter à haute voix, mot par mot, en laissant un temps de silence pendant lequel vous fermez les yeux et vous écoutez la résonance émotionnelle du mot en vous. Alors juste comme ça pour s'amuser, vous allez répéter chez vous, tout haut après moi. Après chaque mot que je dis, vous le répétez chez vous. Vous laissez un temps de silence. Vous observez en vous ce que ça provoque. M'envoyer le prochain mail exempt de faute. d'orthographe. En principe, bien souvent, le mot faute et ou le mot orthographe activent certaines émotions, certaines associations limitantes en vous. Donc, faites ça avec vos objectifs. Et si c'est le cas, si les termes, les mots que vous avez utilisés pour définir votre objectif provoquent une émotion ou une association négative, changez de mot, ou utilisez d'autres outils que je vais vous révéler plus loin. Mais pour l'heure, le quatrième piège, qui est la focalisation sur l'objectif, et surtout sur la forme qu'il doit prendre. On entend souvent, et je le dis aussi, écrivez votre objectif, lisez-le régulièrement, visualisez-vous dans la situation. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, parce que votre objectif, on l'a dit, vient de l'intérieur, c'est quelque chose de vivant, en accord avec vos valeurs. Le plus important, c'est de vivre le plus possible au quotidien l'émotion, les sensations positives qui se trouvent derrière votre objectif. Vous vous souvenez, au début, je vous avais dit que l'émotion était une clé fondamentale pour atteindre votre objectif. Fondamentale. Et je vais vous proposer maintenant de faire un exercice rapide. On va pas prendre beaucoup de temps, mais quand même, vous allez faire l'exercice que je donne parfois en téléconférence ou en conférence, qui est l'exercice du million d'euros. Alors, vous allez prendre une feuille et demain, vous gagnez 1 million d'euros. Que faites-vous avec? Listez ce que vous faites avec sans réfléchir. Les premières choses qui vous viennent, vous listez. Et maintenant, derrière ces choses que vous faites avec ce million, vous allez mettre sur le côté, qu'est-ce que cela vous permet de vivre comme émotion ou comme sensation? Quelle est l'émotion que vous vivez en achetant votre nouvelle voiture, en faisant tel nouvel projet, en faisant le tour du monde, en distribuant votre million? Tout ce que vous avez mis dans votre colonne de gauche, en face de ça, quelle est l'émotion positive que ça vous permet de vivre? Quelle est votre sensation corporelle? Et bien ça, la légèreté, le sentiment d'être libre, le sentiment d'être en sécurité, en paix, etc. Physiquement, comment ça se traduit? Une détente, une ouverture du cœur, le mental serein, ok. Eh bien, dans votre quotidien, trouvez des activités maintenant qui vont vous faire ressentir dans votre corps cette sensation et cette émotion. Parce que ce qui est le plus important, c'est pas d'avoir, c'est d'être. Et donc, revenez à l'être, à vivre les choses et développer au quotidien votre sentiment de joie, d'ivresse, de paix, de sérénité qui se trouve derrière votre objectif. Et restez focalisé sur ces sentiments-là dans votre vie. Premièrement, vous allez lâcher prise sur l'atteinte de votre objectif. Et deuxièmement, vous allez vous mettre en parfaite résonance avec lui. L'émotion, c'est la clé. Vivez l'émotion positive qui est liée à votre objectif. Vivez-la tous les jours. Cinquième piège, mélanger plusieurs objectifs et plusieurs types d'objectifs dans sa vision. Une dame en séminaire me donne son objectif, je vous résume rapidement. Je suis dans ma nouvelle maison, spacieuse, je reçois mes clients et je vis avec un homme génial. Bien sûr, dans sa description, chaque élément était détaillé avec des critères, etc. À la date où cette dame formule son objectif, elle est au chômage, vit dans un appartement et est célibataire. L'objectif qu'elle me donne est donc une vision globale à long terme. C'est à partir de là qu'il est intéressant de commencer lorsqu'on fait son chemin de vie. La vision globale à long terme. Mais tout le travail de cette dame, avec cette dame, a consisté à la faire revenir sur des objectifs à moyen et court terme et à serrer ses priorités. Le travail, la maison, le mari. Tout simplement parce qu'en restant avec la vision à long terme et globale, c'est trop important, c'est trop grand, c'est irréaliste. Maintenant, décomposer objectif d'année en année, par semestre, par trimestre, au mois. Des objectifs qui seront ici atteignables. Nous revenons à la définition SMART maintenant pour se mettre dans une dynamique de succès. D'abord l'imagination, ensuite on redécoupe, on restructure. Et lorsqu'on sépare bien les objectifs, il y a une petite subtilité. Peut intervenir un autre piège, c'est-à-dire de conditionner un objectif par un autre. Par exemple, je développe mon réseau d'affaires quand j'aurai vendu mon restaurant. C'est deux objectifs à très court terme, le développement d'un réseau d'affaires et la vente d'un restaurant. C'est ce qu'un participant avait lors d'un séminaire. Deux objectifs qui sont liés, mais l'un n'empêche pas l'autre. Arrêtez de lier deux objectifs ensemble. Alors, nous avons vu les pièges et les critères de base pour définir des objectifs gagnants. Fausse motivation, conflit objectif-valeur, formulation incorrecte de l'objectif, focalisation sur la forme de l'objectif et le mélange d'objectifs. Vous êtes à même maintenant de décrire votre objectif et de le formuler. De le formuler avec une date. Moi, ce que j'utilise souvent, c'est aujourd'hui le, je mets la date. Je suis, c'est bien le je suis, l'implication. Je suis dans ma nouvelle maison. Je suis dans mon nouveau job. Je suis avec mon nouveau salaire. Je suis un homme de 65 kilos. Je suis riche. Je suis avec une clientèle florissante. C'est je suis impliqué. Et ensuite, je mets tous les critères de mon objectif. C'est-à-dire, quand, comme j'ai imaginé et que je me suis vu, je recopie. Je recopie simplement. Il fait chaud, c'est le matin, je suis détendu, etc. Je recopie tous les critères. Et je termine. Quand j'ai « je suis dans ma nouvelle maison » et je termine par « ou toute autre chose qui est encore meilleure pour moi et pour mon entourage. » Ou toute autre chose qui est encore meilleure pour moi et mon entourage. Ça permet de lâcher prise sur la forme de l'objectif. Vous déterminez ce que vous voulez, précisément, vous impliquez, je suis, tac, et ensuite vous lâchez prise ou toute autre chose qui est encore meilleure pour moi et mon entourage. Vous mettez là derrière une émotion positive. Et votre objectif est décrit. Alors, comment ? Je vois que l'heure tourne. J'ai prévu énormément pour vous, énormément. Comment faire de votre cerveau et de vos émotions vos meilleurs alliés dans l'atteinte de vos objectifs ? Tout d'abord, détectez le frein principal de votre cerveau à accueillir totalement la nouvelle réalité que vous êtes en train de construire. Alors, un exercice à faire. Je vais vous proposer en fait de le faire après le téléséminaire parce qu'autrement on n'arrivera pas au bout. Donc l'exercice en fait, notez cependant la consigne. Vous avez trois phrases. Je ne peux pas atteindre mon objectif parce que le bénéfice que j'ai à ne pas atteindre cet objectif est si j'atteins cet objectif alors. Vous allez écrire de votre main habituelle, la gauche si vous êtes gaucher. Le début de la phrase, je ne peux pas atteindre mon objectif parce que. Ensuite, vous changez votre stylo de main et avec l'autre main, la droite si vous êtes gaucher, vous laissez écrire votre inconscient la suite de la phrase. Et là, vous allez avoir vos freins inconscients. Et vous détectez ensuite quelle est l'émotion limitante de base qui est liée à ce que vous avez découvert. Et alors pour faire, donc c'est important cet exercice-là, ça permet de reconnaître les freins inconscients et de jouer avec. Soyez toujours, toujours à l'écoute des freins inconscients de base. Et vous pouvez déjà faire un exercice par rapport à ça. Un autre exercice qui va rassurer le cerveau, le mental, c'est de prendre une feuille, de faire deux colonnes et définir à gauche quelles sont les difficultés potentielles réelles à atteindre cet objectif et à droite, quelles sont les ressources que vous avez ou que vous pouvez acquérir pour dissoudre, contrer ces difficultés-là. Vous pouvez faire référence à vos réussites passées comme ressources, mais aussi en termes de ressources à acquérir. Et vous revenez régulièrement sur cette liste pour rajouter des ressources. Vous allez rassurer le cerveau, rassurer le mental et faire monter votre confiance en vous par rapport à votre objectif. Et nous voici avec comment vaincre la difficulté du premier pas. Avec la technique des deux cahiers. Alors c'est une technique que j'utilise très 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 souvent. Elle fonctionne à merveille si vous la faites correctement. Vraiment. Vous prenez deux petits cahiers. Petits cahiers que vous achetez. Cahier 10 cm sur 5 cm. Et dans le premier cahier, vous écrivez l'affirmation que votre objectif est réalisé. Par exemple, je suis avec une équipe de distributeurs qui cartonne. Je suis dans ma nouvelle maison et vous mettez quelques critères. Mes revenus ont triplé. Directement, dans l'autre cahier, vous notez tous les oui mais qui vous viennent à l'esprit, sans réfléchir, sans vous interrompre. C'est-à-dire que vous vraiment vous mettez hors de vous, et c'est comme ça que cela marche, vous mettez hors de vous, vous acceptez toutes les parties de vous-même, y compris celles qui ont peur, en les acceptant et en les extériorisant, vous leur permettez l'expression, sans vous y accrocher, sans plus leur donner de pouvoir. Parce que tant qu'elle reste à l'intérieur, ces oui mais, ces pensées, vous ruminez. Et donc, vous leur donnez du pouvoir. Le fait de réaffirmer votre objectif, un critère, tout en faisant de la place et en extériorisant les oui mais, fait que vos affirmations vont prendre cette place mentale et émotionnelle de vos oui mais. Donc, vous copiez les oui mais. Et dès que le flow s'interrompt, vous revenez au premier cahier, vous renotez l'affirmation. Et vous relistez les 8 mais qui viennent. Et ainsi de suite. Et vous faites ça jusqu'au moment où il n'y a plus de 8 mais qui vient lorsque vous écrivez l'affirmation. Et vous allez vraiment sentir une énergie tout à fait différente pour votre objectif. Il sera plus présent en vous, plus fort. Et surtout, il va vous stimuler à l'action. Vraiment. Vous aurez aussi des nouvelles croyances qui peuvent apparaître et vous les notez. Alors, un exercice, moi, que je fais après, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus de 8 mai qui vient, que j'ai bien noté, je renote mes affirmations, qu'il n'y a plus de 8 mai qui vient, je déchire les pages de mon cahier et je les brûle ou je les déchire en petits morceaux, je les mets à la poubelle. C'est vraiment un acte symbolique pour terminer. C'est une nouvelle réalité qui commence. Alors, faites l'exercice aujourd'hui et faites-le aussi demain. Refaites-le demain. Vous allez voir la différence d'énergie d'un cahier à l'autre, d'aujourd'hui à demain. Et c'est comme ça que vous savez que ça fonctionne. C'est quand vous avez un regain d'énergie et un passage à l'action. Et aussi, vous verrez un changement dans votre écriture. Il y aura plus de force, plus de présence dans vos affirmations. Alors, pour ceux qui connaissent la méthode de l'EFT, vous pouvez bien entendu, ça c'est un exercice génial pour travailler avec l'EFT, c'est qu'ayant fait tous les 8 mai, vous pouvez tapoter directement sur les 8 mai. Là, le premier pas vient quasiment instantanément. Alors comment garder, c'est pas le tout de faire le premier pas, c'est pas le tout. Comment garder la motivation jusque la concrétisation de l'objectif? Eh bien en continuant à travailler sur les affirmations et sur les 8 mai. En même temps, les deux cahiers. Et non pas uniquement les affirmations, comme on le dit dans tous les bouquins. Tous les jours, notez vos objectifs, notez vos affirmations positives, non, les deux. Et c'est ici que vous pouvez intégrer la visualisation, la lecture de vos objectifs, vivre l'émotion qui se trouve derrière votre objectif au quotidien, rappelez-vous des événements associés à cette émotion positive, mettez-vous un défi, vous voyez la date qui arrive, objectif pas atteint, chiche que j'y arrive, sortez de la victimisation, chiche, mettez-vous un défi. Autre chose pour garder la motivation, chaque jour, fixez-vous un petit objectif de moyen. Chaque jour que vous allez réussir, et ça simplement pour faire grandir votre confiance en vous. Donc, continuez à travailler avec les deux cahiers ou l'EFT. Intégrer des visualisations. Vivre l'émotion positive. Vous mettre un défi, vous fixez chaque jour un objectif de moyens réalisable. Ça vous aide à garder votre motivation jusque la concrétisation de votre objectif. Il ne faut pas plus. Alors les 5 clés maintenant pour dépasser tous vos objectifs. Ça va reprendre un peu ce qu'on a vu et en même temps synthétiser d'autres points. Créer des ancrages positifs par rapport à votre vision de l'objectif, c'est-à-dire non seulement vivre l'émotion, mais aussi, clé suivante, jouer à faire comme si. Faites comme si votre objectif était déjà atteint. Vous voulez être riche? Prenez! Jouez, allez dans un hôtel de luxe et simplement asseyez-vous dans le hall de l'hôtel, prenez un café et observez, sentez, mettez-vous dans la peau comme si vous étiez riche, entre guillemets, je prends cet exemple-là, mais simplement faites comme si, créez des ancrages positifs par rapport à votre vision de l'objectif. Évitez de confondre objectif de moyen et objectif final. Votre vision, c'est bien sûr l'objectif final. Et vous structurez vos objectifs à court et moyen terme en objectifs atteignables. Pour dépasser tous vos objectifs, un truc aussi, une clé, un objectif, un objectif, un objectif, un objectif. Aucune condition. Évitez de conditionner l'atteinte d'un objectif par un autre. passe à l'action chaque jour. Un objectif chaque jour au service de votre vision finale. Et félicitez-vous. Réjouissez-vous en fin de chaque journée. En résumé, votre objectif est atteint quand vous pensez, sentez et agissez comme s'il était déjà là. Mettez-vous vraiment dans cette identité-là. C'est vous qui vous transformez. C'est vous qui changez d'identité. Vous ne créez pas quelque chose d'extérieur à vous. Vous n'attirez rien à vous non plus. Vous transformez intérieurement en vous mettant dans la peau de celui qui a déjà changé de job, de celui qui gagne déjà autant, de celui ou de celle qui a telle maison. Vous vous mettez dans cette identité-là, dans cette peau-là. Alors, avant de répondre aux différentes questions qui m'ont été posées par mail, je vais simplement, pour l'instant, faire une séance de visualisation avec vous. Et en réalité, c'est une séance d'imagerie sensitive. C'est-à-dire que vous allez simplement, je vais vous proposer de vous détendre, de rentrer en vous, d'imaginer votre objectif atteint, avec toutes les sensations et émotions positives que cela peut produire. Et nous allons ensemble amplifier la connexion entre votre objectif et ses sensations et émotions positives. C'est donc quelque chose de très vivant et non une simple visualisation. Vous pouvez prendre un objectif très proche, non impliquant que vous avez envie de travailler là maintenant. Et pour reproduire cet exercice chez vous, les grandes étapes sont d'abord une phase de détente, un centrage sur la respiration, une phase de connexion avec des émotions positives, une phase de connexion avec le cœur qui fait vibrer, l'imagerie sensitive de votre objectif, l'amplification émotionnelle et la phase de retour. Donc je vais vous inviter maintenant à vous installer confortablement, à mettre le téléphone sur haut-parleur si ce n'est déjà fait, et à centrer votre attention sur votre respiration. Vous inspirez profondément, vous expirez profondément, et sentez le flux et le reflux de l'inspire et de l'expire, comme des vagues de détente qui vous parcourent et vous rendent léger, légère. Inspirez profondément en gonflant le ventre, bloquez votre respiration. Et expirez très très doucement et longuement. Inspirez profondément en gonflant le ventre. Bloquez votre respiration. Expirez très très doucement et longuement en laissant la détente s'installer jusque dans le bout des orteils. Inspirez profondément en gonflant le ventre. Bloquez votre respiration. Expirez très très doucement et longuement en esquissant un léger sourire sur vos lèvres. Et tandis que votre respiration se ralentit, amplifiez votre sourire sur vos lèvres. et imaginez ce même sourire dans votre cœur ou juste en dessous de votre nombril, à l'intérieur de votre ventre. Sentez à cet endroit précis l'émotion du sourire. Et vous pouvez aussi vous remémorer le sourire d'un bébé ou d'un enfant, ou de quelqu'un qui vous est cher, le rire d'un ami. Goûtez à cette énergie extrêmement positive. Centrez maintenant votre attention sur ce sourire intérieur. Des images peuvent venir, des sons, laissez-les passer. Et guidé par ma voix, vous allez amplifier cette émotion positive. Un peu comme on augmente la chaleur d'une pièce en tournant la vanne thermostatique du radiateur. À chaque respiration, vous augmentez le sourire intérieur dans votre corps. Vous augmentez son rayonnement. Sentez qu'il rentre dans toutes vos cellules. Voyez une multitude de sourires s'amuser entre eux. Entendez la douce musique du rire d'enfant dans vos oreilles. Augmentez encore le sentiment de joie profonde et de bonheur dans votre corps. Et prenez un instant pour observer, ressentir toute cette joie à l'intérieur de vos cellules. Et à présent, concentrez cette joie intérieure au niveau de votre cœur. Et laissez-vous guider vers la vision de votre objectif. Entourez votre vision d'un cercle blanc ou d'une toute autre couleur qui symbolise la concrétisation pour vous. Et pour rendre la vision de votre objectif encore plus claire, plus précise, vous pouvez vous souvenir des critères de votre objectif. Voyez-vous au centre de votre objectif? Entendez-vous parler? Ressentez des émotions positives, la joie, la fierté, la sécurité, la paix, la confiance, ou toute autre émotion positive liée à votre objectif? Sentez comme vous êtes différent, plus fort, plus vous-même, et éclairez encore plus votre objectif. Et laissez à présent votre sourire intérieur pénétrer la vision de votre objectif et augmenter la connexion entre votre sourire intérieur et votre objectif. Représentez-vous votre objectif irradiant de joie et de lumière et augmentez le niveau de joie et de lumière dans votre objectif jusqu'à ce que cela reste agréable pour vous. et je vous laisse quelques instants goûter à votre vision. Et lorsque vous entendrez à nouveau ma voix, vous saurez qu'il sera le moment de revenir dans la salle. Centrez à nouveau votre attention sur votre respiration, tout en restant centré à l'intérieur de votre cœur. Inspirez profondément, expirez profondément, et à chaque inspire, vous remontez un peu plus à la surface de votre corps, rempli de toutes ces émotions positives. Et vous pouvez laisser venir ce qui vient, un bâillement, un étirement. Chacun à votre rythme. Vous étirez comme après une longue nuit de sommeil. Et quand vous le souhaitez, vous ouvrez les yeux et reprenez contact avec la pièce dans laquelle vous êtes. Voilà. Alors ceci est vraiment une imagerie sensitive, je vous laisse un peu revenir tout doucement, qui est encore beaucoup plus puissante lorsqu'on travaille avant à activer l'énergie du rire et du fou rire. Le fait de lier une émotion positive à votre objectif, une émotion positive qui est déjà présente dans le corps, c'est-à-dire où le corps physiologiquement, biochimiquement, dégage déjà, est dans cette émotion-là, renforce les connexions au niveau du cerveau. Le cerveau, je l'ai déjà dit dans mes téléconférences, retient essentiellement les choses pour lesquelles la charge émotionnelle est la plus importante. Donc plus vous allez associer votre objectif à une charge émotionnelle positive, plus, bien entendu, votre cerveau va pouvoir croire à cette nouvelle réalité. Alors avant de terminer, j'ai reçu donc deux questions. Hein, une question de Sabrina. Une question de Sabrina qui travaille, Sabrina, dans le cadre de la réorientation de personnes qui ont vécu des licenciements. Donc elle me pose comme question que certaines personnes ne savent pas du tout ou sont déstabilisées par leur licenciement, donc elles ne savent pas vers quoi aller, vers quoi se réorienter, et la moindre décision ou orientation est difficile pour eux. Donc Sabrina m'explique qu'elle travaille avec la méthode SMART et qu'elle ne sait pas comment faire avec les personnes qui ne savent plus ou qui n'ont pas d'envie, qui attendent, comme beaucoup de gens, qu'on leur dise quoi faire. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'il y a des personnes qui disent vouloir retravailler mais qui ne font aucune démarche. Donc qu'il y a une incohérence entre leur discours et leurs actes. Et donc comment détecter les freins et ou bénéfices secondaires de leur non-action. Alors, je crois qu'à travers les différents exercices, il y a déjà eu des réponses à cette question-là. Je vais repréciser certaines choses. Premièrement, pour les personnes qui ne savent plus du tout, qui sont déstabilisées par leur licenciement, c'est d'abord travailler là-dessus. D'abord, travailler sur cette identité qu'ils ont d'être licencié. Je suis licencié. Comment se créer un nouveau projet professionnel si je suis encore dans l'identité « je suis un licencié, je suis une licenciée ». J'ai été licencié. C'est uniquement quand la personne va pouvoir commencer à transformer son identité que ça va pouvoir se faire, que ça va s'éclaircir au niveau d'un objectif. Donc, travailler déjà avec ces personnes-là sur le licenciement, les sentiments de colère, de frustration, etc., qu'ils ont. C'est une première phase, faire le deuil de ce que, de leur ancien job, faire le deuil de leur ancien job. C'est vraiment le premier point à travailler avec eux avant l'orientation. Si il y a, je sais que dans certains modules d'orientation comme ça, il y a des modules de deuil, hein, mais si vous avez après ce module-là des gens qui ont encore la moindre décision, orientation est difficile, c'est qu'il y a, le deuil n'a pas été totalement fait. Donc, le deuil de cette identité-là. Deuxièmement, d'activer beaucoup plus l'imaginaire et les ressources avant de travailler le projet. C'est vraiment une phase activer les passions, activer les centres d'intérêt au niveau émotionnel. C'est-à-dire, c'est pas simplement poser la question, mais quels sont vos centres d'intérêt? Voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Non, c'est les faire raconter, les faire mettre, les faire prendre conscience que quand ils racontent une de leurs passions, un de leurs centres d'intérêt, il y a leurs yeux qui pétillent. Donc, de les reconnecter avec une source vive en eux, et puis de faire le lien des tiens. Et là, maintenant, vous êtes dans cet état, vous me parlez de votre passion, cuisiner, etc. Tiens, mais en restant dans cet état-là, qu'est-ce que vous pouvez vous imaginer comme job? Que ce soit en lien avec cette passion ou pas. Mais c'est de faire revivre l'état émotionnel positif, un état émotionnel ressource, et activer l'imaginaire. Faites des rêves éveillés. Faites un rêve éveillé, projetez la personne dans un avenir, dans son avenir, comment elle se voit dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et en activant l'imaginaire, c'est ça le problème avec la méthode SMART, c'est qu'elle ne l'active pas assez, en activant l'imaginaire et l'émotionnel positif, alors à ce moment-là, la personne va être capable de se projeter dans une orientation professionnelle. Mais pas avant, pas avant. Libérer du stress, du licenciement, travailler sur l'imaginaire et sur les émotions positives liées à des ressources, à des centres d'intérêt existants. Faites vraiment travailler les personnes sur leur passion et centre d'intérêt. Vraiment, 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 vraiment. Mais au niveau émotionnel, quoi. Émotionnel. Alors, ceux qui ne font aucune démarche, travaillez le point que j'ai nommé, le point avec les alliés, les trois questions. Les trois questions. Pour en fait confronter la personne justement à la fois cette volonté consciente et cette crainte inconsciente. Faites les trois questions. Quel bénéfice j'ai à rester dans la situation? Qu'est-ce qui va se passer si je change de situation? Donc vraiment le parce que, changer de main, cet exercice-là, faites-le. Ce sont vraiment des freins inconscients que la personne va mettre en avant. Et ensuite, vous pouvez proposer à cette personne-là de faire l'exercice des deux cahiers. Hein, si la personne a effectivement des actions, ne fait aucune démarche, mais elle veut travailler, mais voilà, ok, quels sont les freins? Voilà, je me vois dans tel boulot, mais quels sont les freins? Alors, ce sont deux exercices, il y en a d'autres, parce qu'il y a effectivement les personnes qui ne souhaitent plus du tout retravailler, mais qui, étant mis dans un processus d'outplacement, de réorientation professionnelle, jouent un certain jeu avec vous. Donc là, c'est aussi à détecter quand il y a une réelle motivation à retravailler ou pas. Donc, c'est vraiment, il y a des formations spécifiques sur le changement en orientation professionnelle. Là, je ne vais pas pouvoir l'aborder dans le cadre de ce téléséminaire, mais sachez qu'il y a ça aussi, hein, que certaines personnes n'ont pas envie de retravailler, qu'elles jouent un jeu pendant le processus d'outplacement. Donc, et tentez d'abord avec ces deux exercices-là, hein, les freins inconscients et puis les deux cahiers, quoi. Alors, une autre question, enfin, il y en avait plusieurs dédiées qui dit voilà, j'ai vu la maison de mes rêves, je veux emprunter tant, enfin elle coûte autant et je veux emprunter que la moitié, même pas, et je veux savoir comment faire pour trouver le reste. Et en même temps, Eddie me donne deux, trois autres objectifs liés à l'argent. Voilà, je veux gagner pour telle date 4 500 € par mois, avoir 500 000 € pour telle date, qui sont tous des objectifs à très court terme, avec des sommes qui sont quand même importantes, dont je peux présupposer de la situation, des sommes qui sont quand même importantes. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, là, attention à la faisabilité. Pas à la faisabilité matérielle, mais simplement à la faisabilité au niveau du cerveau. Ce sont trois objectifs, la maison, le montant par mois et la grosse somme d'argent arrivée. Trois objectifs à très court terme, où le cerveau... Et bon, nous dit qu'il a beaucoup de peur, hein, vous dites, hein, j'ai beaucoup de peur qui revient en disant c'est pas possible. Dans les trois objectifs, il y a des c'est pas possible. Donc c'est trop gros, le cerveau ne peut pas accepter. Le cerveau ne peut pas accepter. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit travailler avec des objectifs intermédiaires. Qu'est-ce que le cerveau peut accepter comme somme ? 4 500 n'accepte pas. 4 000, 3 000, 3 500, c'est quoi la somme acceptable où ça ne vibre plus de trop ? Même chose avec la grosse somme de 50 000 €. Bien souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Quand on vient d'une situation financière difficile, on imagine une grosse somme. L'inconvénient, c'est que le cerveau n'est pas prêt à croire ça. Donc, c'est bien d'agir étape par étape. Garder ces sommes-là, mais peut-être changer la date. Peut-être, hein, vous prenez ce qu'il y a. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de peur. Hein, il dit que cette peur qui me revient, je me dis que c'est impossible. Et vous concluez en disant, je pense que ce sont encore des peurs. Et oui, donc, émotionnellement, il y a un conflit entre ce que vous vibrez positivement et à la fois la peur. Donc, qu'est-ce qui est le plus fort ici, dans ce que je lis de votre mail ? C'est bien la peur. Donc, allez au charbon avec votre peur. Soit faites l'exercice des deux cahiers, hein, des deux cahiers, mettez les affirmations positives. J'ai 50 000 € sur mon compte pour telle date. Quels sont tous les 8 mai qui viennent ? Vous parlez aussi de passer nuit à Disneyland. Ben voilà, je suis à Disneyland. Voilà, tous les 8 mai qui viennent. Et vous faites ça jusqu'à la fin. Et Eddie, je sais, je connais Eddie. Vous êtes venu à un séminaire, donc vous connaissez l'EFT. Pratiquez l'EFT sur les 8 mai. Pratiquez. Ici, le plus important n'est pas de comment pouvoir visualiser, comment pouvoir formuler, c'est surtout comment se libérer de l'émotion de la peur. Voyez aussi, faites bien l'exercice des fausses motivations. Voyez s'il n'y a pas une fausse motivation là derrière. Et transformer là. Donc il y a vraiment à travers le téléséminaire des outils là que vous avez, hein, que vous pouvez faire. Voyez par rapport à vos 3-4 objectifs que vous m'avez donné dans votre formulaire, dans votre mail, quelles sont les fausses motivations. Jouer à transformer. Travailler sur les peurs, soit avec les cahiers, soit avec l'EFT ou les deux. Vous voyez au niveau de la faisabilité, est-ce que c'est réaliste ou pas ? Voyez si vous pouvez modifier, mettre un objectif à plus long terme et diminuer, revenir à quelque chose qui est atteignable à du très court terme pour vous mettre dans une dynamique positive. Le but, c'est de se mettre dans une dynamique positive avec ses objectifs. Donc voilà, les différents points sur lesquels vous pouvez travailler avec vos objectifs, mais le point principal pour moi, ce sont les peurs qui sont à traverser, à transformer, à dissoudre. Voilà, ce séminaire se termine. J'espère qu'il a répondu à toutes vos attentes et vos besoins. Avant de terminer, simplement Je vous ai promis en début de téléséminaire un bonus. Bien oui, il y a un bonus à suivre en direct ce téléséminaire, ou du moins à participer au téléséminaire, même si vous allez le recevoir d'ici 24 ou 48 heures par mail. Aux participants du téléséminaire, vous pouvez m'envoyer en déant les 48 heures la formulation de votre objectif ou de vos objectifs avec une de vos questions par rapport à votre objectif qui vous est personnel, et je vous répondrai, je vous donnerai mon avis là-dessus. Donc profitez-en, ça fait partie, c'est un bonus, ça fait partie de l'après-téléséminaire. C'est envoyez-moi la formulation de votre objectif et votre question par rapport à cet objectif, et j'y répondrai bien volontiers. Voilà, nous avons vu beaucoup de choses pendant un peu plus d'une heure et demie. Je vous laisse maintenant œuvrer à l'atteinte de vos objectifs, à la fixation de vos objectifs. C'était Grégory Vispelard qui vous a présenté le téléséminaire « Comment enfin définir des objectifs gagnants ». Au revoir et à très bientôt.